A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Il dit écrire pour disparaître et le voici qui réapparaît en écrivain citoyen qui tisse encore et toujours un fil d'Ariane entre individu et société, entre le je et le nous. Lionel Trouillot, grand peintre de la colère haïtienne, nous revient avec « Ne m'appelle pas capitaine », le quartier morne d'Edé en tremble encore. Poète, romancier, éditeur, professeur, activiste littéraire d'expression créole et française, Trouillot n'a qu'une urgence sur cette terre, écrire. De Rue des Pas Perdus à Bicentenaire, en passant par L'amour avant que j'oublie, il dit le chaos en y mettant aussi de la jubilation et de l'amour. Alors faisons connaissance avec celui qui a encore, je le vois bien, 7000 km d'océan Atlantique dans la gorge, pour avoir fait il y a peu Port-au-Prince, Paris. Une rencontre réalisée avant le séisme du 6 octobre dernier. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que cette cigarette là, entre les doigts?
Ah, j'ai toujours une cigarette entre les doigts, je peux la garder longtemps comme ça.
Même si elle n'est pas allumée?
Même si elle n'est pas allumée.
Comment va votre voix?
J'ai l'impression qu'elle se porte bien. Ça fait presque 62 ans que je vis avec et je l'ai connue en pire état.
Bon. Alors, petite remarque pour commencer. Lorsqu'au téléphone, je vous ai dit que RFI avait lancé cette émission en sol majeur, précisément au moment où Nicolas Sarkozy créait son ministère de l'Identité nationale et d'immigration, vous avez ri. Pourquoi?
Oh, parce qu'il me semble qu'il y a un élément de subversion et c'est une petite taquinerie à ces obsessions identitaires d'inviter les gens à se prononcer sur leur propre parcours et sur les parcours des autres. C'est une sorte d'invitation au voyage, cette émission. Et c'est aussi une sorte de procédure d'accueil pour les autres. Donc, face à un ministère qui se voudrait fermeture, c'est un beau pied de nez.
Est-ce que vous sauriez vous décrire, Lionel Trouillot? C'est une question valable autant pour les journalistes que pour les écrivains à vous lire.
Non. Non, je vois quand il m'arrive de me regarder un petit monsieur chauve, un peu rond.
Êtes-vous un poète ou un militant?
Je n'utilise presque jamais le mot poète. Je crois que quand on aborde le domaine de la poésie, il faut le faire avec beaucoup de modestie et un peu comme à reculons. On devrait parler de poésie, comme disait un poète français, il le disait pour la peinture, on devrait parler de poésie en s'excusant. Militant, je dirais pas, je dirais plus activiste.
Quand vous dites, Lionel Trouillot, que vous écrivez pour disparaître, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, j'aime bien cette idée. Je crois que les auteurs, parfois, sont trop présents, trop évidents dans leurs textes. Il y a un mot que j'aime bien, quelqu'un qui, justement, face à quelqu'un qui se montre toujours, qui est toujours là, il faut qu'on le voit, et qui dit cette très belle phrase, je trouve, il le croise et il lui dit « Ah, toujours aussi évident, mon ami ». Mais je pense que, parfois, peut-être les auteurs aujourd'hui sont-ils trop évidents.
Trop médiatiques ?
Oui, médiatiques. Il faudrait peut-être se cacher et laisser la place aux autres. Je crois à l'idée de l'écrivain public, c'est-à-dire de l'écrivain qui prend sur lui ou qui prend sur elle de dire l'autre.
Ne m'appelle pas capitaine, donc nouveau roman chez Actes Sud, comme toujours, où il est question là d'une rencontre impossible entre une journaliste bourgeoise et un vieux grigou qu'on appelle capitaine. Ils sont de deux quartiers de Port-au-Prince aussi différents que deux pays peuvent l'être, hein, apparemment. L'une vient de Montagne Noire et l'autre vit à Morne d'Edé.
Tea. été comme triste tropique.
Il porte toujours un casque comme un colon, ton père. T'es sûr qu'il sait que tu es ici, sur les ruines du morne Dédé, sans chauffeur, ni garde du corps? Ça, c'est ce que dit votre personnage capitaine pour accueillir celle que moi j'appellerais l'étrangère, Aude, la journaliste. Alors d'abord, première question, qu'est-ce qui différencie fondamentalement Morne Dédé de Montagne Noire?
Le délabrement d'un côté, la richesse de l'autre. L'évidence de la richesse à Montagne Noire, c'est encore boisé. Il y a les très belles maisons, il y a les portails, il y a les aboiements de chiens qu'on devine costauds. Et puis le morne Dédé, où il y a la transpiration, où il y a des maisons dont on peut deviner qu'elles ont été à tel moment de leur existence de belles maisons, mais elles deviennent de plus en plus indéfinies, des structures indéfinies. On dirait qu'on a construit des maisons sur des maisons, et puis encore une fois, les passants, une sale odeur de poussière et de soleil, je dirais.
Alors évidemment, tout sépare ces deux personnages, Aude et Capitaine, autant leur condition sociale que l'âge de leurs artères.
Oui, totalement. Je crois qu'il y a de plus en plus, et d'ailleurs c'est entretenu, parfois par les médias, parfois par les responsables politiques, il y a de plus en plus une sorte de relation conflictuelle entre les générations, et pas seulement en Haïti. Il y a un jeunisme qui frappe le monde, et on dirait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que toute l'histoire de l'humanité qui les précède n'avait qu'un seul but, c'était de conduire à eux. Donc une ignorance totale du passé, on voudrait qu'ils voudraient éliminer les gens pour faute de vieillesse. Et d'un autre côté, il y a des vieux qui s'installent dans une sorte de nostalgie, de paradis de la mémoire, et cela contribue à rendre difficile toute conversation.
Donc vous luttez un peu contre ce dialogue de sourds entre générations?
Lutter contre, je ne sais pas, mais j'essaie de le signaler, parce que c'est incroyable de voir comment les jeunes d'aujourd'hui ignorent tout du passé. Pour eux, Haïti, c'est 200 ans d'échec. Et quand vous avez un jeune qui vous dit ça, c'est parce qu'il ne connaît pas la geste de l'indépendance d'Haïti, c'est parce qu'il ne connaît pas tout ce que ce pays a pu produire dans des conditions improbables. Il y a un miracle d'Haïti, mais les jeunes ne connaissent pas. Ou encore quand vous avez un jeune qui vous dit « Ah, au temps de Duvalier, c'était mieux ». Il n'a jamais connu les temps de Duvalier, mais comme personne ne lui a expliqué, ne lui a raconté ce qu'avait été la dictature. Et ce déficit de connaissances historiques, ce déficit de mémoire, ne peut amener qu'à des bêtises.
Alors vous faites se rencontrer ces deux personnages. Capitaine va accueillir, je mets ça en italique ou entre guillemets, une espèce qu'il n'aime pas beaucoup sur la Terre, c'est les journalistes.
Oui, je taquine un peu, je suis journaliste par ailleurs, mais je pense que on peut avoir quand même un regard critique sur cette profession, parce que souvent, les journalistes vont au secours de l'évidence. Ils ne vont pas chercher le mystère. Il y a eu un tremblement de terre, tant de personnes sont mortes. Mais quel journaliste s'intéressait à l'individualité de ces personnes au moment où elles étaient en vie? Nos drames intérieurs, ça n'intéresse personne à partir du moment où ça ne fait pas événement.
Alors est-ce que Aude, qui est donc issue de la classe dominante, qui est blanche, journaliste, qui a toutes les tares finalement, est-ce qu'elle va, elle, réussir à percer le mystère de ce quartier morne Dédé sous les yeux de Capitaine?
Je crois que c'est important pour elle aussi de percer son propre mystère. Elle a la chance d'avoir 20 ans. Elle n'a pas passé sa vie à se reproduire telle que sa famille, avec ses idéologies, avec tout ce que sa famille a pu lui inculquer, je dirais, de mépris de l'autre, d'ignorance sociale, de volonté de s'enrichir au détriment des autres. Aude, elle a 20 ans. Donc c'est une chance, quand on a 20 ans, peut-être, de sortir justement des surdéterminations dans lesquelles on a voulu nous enfermer. Donc la rencontre avec Capitaine n'est pas seulement pour elle la découverte de cet autre monde, c'est aussi la découverte d'une possibilité d'elle-même.
Alors pour rentrer dans Morne Dédé, ça se fait pas comme ça, hein. Il y a comme des checkpoints et par exemple, il y a un certain, je sais pas comment on l'appelle, Jameson. Voilà, c'est un gamin. Aude va être escortée de ce jeune Jameson pour s'avancer sur les terres de capitaine qui soliloque sous votre plume, Lionel Trouillot.
Ça s'est bien passé avec Jameson. C'est mieux que les gens te voient avec lui. Ici, si tu parais plus riche que les autres, la colère se lève vite contre toi. Un bonjour auquel tu ne réponds pas, un regard, un mot, un faux air qu'on te trouve, au moindre prétexte, toutes les rancœurs du monde te tombent dessus en avalanche. Et tu payes l'injure, la pierre, vlan, pour le père que je n'ai pas eu, vlan, pour ce pain qui n'est pas quotidien, vlan, pour cet homme, que dis-je, cette pourriture d'homme, ce sac de sperme et de mensonges qui m'a laissé un peu de sa merde dans le ventre, vlan, pour l'aube sale, couleur d'immondice, pour l'irrespirable odeur de transpiration, de pissa, les latrines, les trois pourris, la promiscuité, les restes, la privation, les cautères, les escarres, le miasme, les effluves, toutes ces choses qui s'amalgament, font masse et qu'on appelle la misère.
Extra en sol majeur de Ne m'appelle pas capitaine, avec vous Lionel Trouillot. Donc, à l'écouter, votre capitaine, il y a dans ce quartier finalement la concentration absolue de tous les maux de la société haïtienne. C'est la métaphore de l'échec d'Haïti.
Hélas, c'est la métaphore de l'échec d'Haïti, mais c'est la condition réelle dans certains quartiers de Port-au-Prince, où là, on a vraiment parfois l'impression que toutes les misères du monde sont venues s'amalgamer. La pauvreté, déjà, l'absence de toit, les logis à l'improviste, le nombre qui amène la promiscuité, la débrouillardise et tout ce qu'elle implique comme petite criminalité et parfois grande criminalité, le bruit parce que il n'y a pas suffisamment d'espace pour tout le monde et tout ce qui se dit semble faire masse.
C'est aussi le lieu du refuge des opposants politiques.
À l'époque de la dictature, il y a eu quelques quartiers dans Port-au-Prince, dont un peu le quartier de Saint-Antoine, parce que le Morne-Dédé, c'est un élément d'un plus grand quartier qui s'appelle Saint-Antoine et a eu quelques familles d'opposants. C'était un quartier qui était plutôt sous surveillance à l'époque de la dictature des Duveliers.
En tout cas, vous, l'auteur, vous ne grossissez pas le trait sur ces multiples misères qui tombent sur Morne Dédé. C'est-à-dire, c'est le journaliste aussi qui pointe derrière l'auteur ?
Je n'en vois pas la nécessité. Journaliste, je ne sais pas, mais j'essaie de travailler avec le réel. La plupart des anecdotes que je glisse correspondent à des choses qui ont été. Il y a vraiment eu, à un certain moment, une équipe de foot qui avait pour nom Bolide. Mais il n'est pas nécessaire d'inventer plus de pauvreté qu'il y en a. Parce que je ne veux pas non plus faire un roman qui serait un peu la caricature d'Haïti pour que les gens s'apitoient.
Non, mais votre capitaine n'y supporterait pas la compassion. Hein.
Pas du tout.
On est d'accord.
Pas du tout.
Sa voix est celle du hurlement en même temps d'un quartier, non ?
Oui, c'est la mémoire du quartier déjà. Parce que ces quartiers, ils n'existent plus tels qu'ils étaient autrefois et il n'y a personne pour raconter ce passé. Et capitaine, il a cette première fonction. Et la deuxième fonction, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la colère, mais plus une colère rentrée que d'un cri véritable. Aude, au moment où elle arrive, c'est un peu comme s'il lui dit « Ne viens pas m'emmerder, je garde mes souffrances comme un secret. » À ce poème d'Aragon, je crois que c'est Richard II, 40, dans laquelle il y avait ces vers « Et je ressemble à ce monarque plus malheureux que le malheur qui restait roi de cette douleur. » Voilà, capitaine, c'est quelqu'un qui veut rester roi de ses douleurs, qui ne va pas les galvauder, les partager avec n'importe qui.
Sauf que le fait qu'il y ait cette palabre entre eux, vous avez presque opté pour une forme de monologue intérieur. Finalement, chacun prend la parole dans son précaré, si j'ose dire. Cette palabre va être salutaire. Ça va changer quoi entre eux, cette palabre ?
Elle change beaucoup, parce que, comme disait le grand poète haïtien René Philoctète, l'homme n'est jamais seul, alors que je vous parle et que vous m'écoutez. Mais en même temps, ce monologue intérieur, quelque part, capitaine l'entend, quelque part. Et elle, Aude, elle entend la voix du capitaine, puisque lui, il est dans le presque cri. De ces mots qui sortent des deux personnages, naît déjà la possibilité d'une intelligence, d'une compréhension, et il se découvre à supposer à l'autre une humanité qu'il ne supposait pas à cet autre avant cette conversation.
Vous faites d'une certaine manière l'éloge de la parole, Lionel Trouillot. L'inconscient est structuré comme un langage, disait quelqu'un. Vous êtes d'accord là-dessus?
Oui, tout à fait.
Tout est dans le langage?
Je crois que tout n'est pas dans le langage, puisqu'il y a les guerres. Donc c'est la preuve que le langage peut échouer d'ailleurs. Le même que vous citez disait que justement la violence, on en arrive là au moment où le langage a échoué. Donc il y a la possibilité que dans certaines situations concrètes, à certains moments historiques, le langage échoue. Et sans cet élément du langage, et quand on prend la société haïtienne et d'autres sociétés dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit entre les riches et les pauvres? Qu'est-ce qui se dit entre le jeune et le vieux? Entre l'arabe qui n'est pas comme l'occidental voudrait qu'il soit et l'Occident. Donc cette nécessité de la conversation, elle me semble quelque chose de très actuel.
Que dire du langage de Willy Saint-Louis? Vous avez le sourire là. Votre clope est toujours pas allumée, mais elle sourit aussi, je le vois d'ici. Pourquoi lui?
Willy Saint-Louis-Jean, parce qu'il fait un travail exceptionnel en Haïti. Il met en musique la poésie haïtienne, d'expression créole surtout, et quelquefois les textes en français. Il donne à cette poésie qui restait un peu dans les livres une dimension populaire. Il fait un peu ce que Ferré, Ferra et d'autres ont fait avec la poésie française.
Même les portails levés sous mauvais bord sont tissus, sont immélas, cap, si mélac en ciel. D'où les nan d'un ken, la costume carnaval nous. N'après les vives misères nous. N'après les vives misères nous. N'après les vives misères nous. Laissez pas peindre son gilet ou yon cadavre. Yo si maillé, soto chime maléré. Selvin van piché nous continuerait les. Vive misère nous. Vive misère nous continuerons les misères nous. Nous est portail, cap descendre sous portail. Drapeau même couleur, parole qui fait que jour. Tambour pochat à pouler, n'a posé bonnet nous. N'a posé bonnet nous. N'a posé bonnet nous, n'a posé bonnet nous, n'a posé bonnet
de Willy Saint-Louis sur RFI pour palabrer, s'enjailler, parler avec Lionel Trouillot. Vous avez vu, j'ai enlevé le R à la mode créole. Trouillot qui n'a pas ses langues dans sa poche, et ça depuis ses culottes courtes en Haïti.
Alors notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les tontons à côte, c'est couper tête, brûler les cailles. Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons.
P.
P. Comme parfum d'enfance.
Est-ce que vos oreilles reconnaissent quelque chose de l'enfance haïtienne qui a été la vôtre? Lionel Trouillot.
Ah oui, juste une remarque, le slogan Coupe-tête Bouleka est à l'origine le slogan de la guerre d'indépendance d'Haïti, qui a été un peu perverti par la mascarade du Aliériste. Et fondamentalement, c'était un slogan positif dans l'histoire d'Haïti au moment de la guerre. Mon enfance, c'est beaucoup de choses. Mon enfance, c'est beaucoup de silence, beaucoup de murmures. On dirait que le soir, les adultes murmuraient. C'est aussi le couvre-feu. Moi, j'ai grandi dans les années Duvalier. Je suis né pratiquement au moment où Duvalier arrive.
Vous êtes né en 56.
Au pouvoir. Et oui, j'ai dans mes souvenirs l'enfance. Il y a le couvre-feu, il y a le silence, il y a le murmure. Il y a aussi le bruit des bottes des militaires, parfois dans les rues. Il y a aussi cette chose assez étrange pour un enfant. Quand quelqu'un disparaissait de nos vies, on n'avait pas trop le droit de demander « mais qu'est-il arrivé à un tel ?» On ne le voit plus. Enfin, on savait, on avait développé ce savoir de ne pas demander des nouvelles des gens qu'on ne voyait pas.
Est-ce que ces murmures et ces bruits de bottes ont été déterminants pour la suite de votre vie ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais que ce sont des choses qui sont restées. Sans me mettre, si vous voulez, en conflit avec mon enfance, je n'ai aucune haine, je dirais, de mon enfance. J'ai ces souvenirs parmi d'autres.
Votre famille, est-ce qu'elle était, vous diriez, armée pour traverser ces années de dictature sous Papa Doc et Bébé Doc ?
Quelle famille est...
armée.
Armée. Même
vous êtes
des familles...
issue d'une famille d'avocats, non ?
Bon, mon grand-père, mes grands-pères même... mon père, mon oncle, même s'il n'a jamais pratiqué ce métier d'avocat, je dirais aussi d'une famille, surtout une famille côté paternel, une famille d'intellectuels, d'historiens. Ils étaient là, mon oncle et mon père, toujours à discuter de l'histoire d'Haïti. On avait l'impression qu'ils avaient vécu toute leur vie avec les héros. J'ai été bercé par cela. En même temps, comment être un notable dans la société haïtienne de l'époque sans quelque part pactiser avec le pouvoir, sans quelque part être en situation d'antagonisme avec... C'était des vies difficiles. Moi, je suis heureux de n'avoir pas fait partie de cette génération, parce que je crois que la génération de ceux qui avaient l'âge adulte au moment des années noires, des années Duvalier, c'est une génération qui n'a pas été épargnée par l'histoire, parce que souvent, il lui a fallu choisir au jour le jour, et c'était des temps difficiles à vivre pour les adultes.
Donc en tout cas, le quartier où vous avez grandi, Lionel Trouillot, n'avait rien à voir avec ce morne Dédé où aujourd'hui, je vous cite, une armée d'enfants fous court avec de la haine dans les yeux.
Absolument rien à voir, moi. Si je faisais une toute petite bêtise dans la rue avec quelqu'un qui allait rapporter ça à ma mère ou qui me ramenait chez moi en me prenant par les oreilles, on était toujours sous surveillance.
Quand est-ce que vous avez découvert ce pays, celui de la misère en Haïti ?
Je dois dire que c'est un pays que j'ai vraiment découvert quand je suis retourné en Haïti, parce que je n'en parle pas beaucoup, mais moi je me suis retrouvé à 14 ans hors d'Haïti. À 19 ans, j'ai choisi de revenir. Tout le monde me disait un peu, mais attends, t'es fou, pourquoi tu y retournes alors que les autres veulent partir ? D'abord, j'ai découvert que tous les Haïtiens ne souhaitent pas laisser Haïti, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que nous connaissons peu ce pays, nous connaissons notre petit monde. Et quand je suis retourné en Haïti, c'est là que j'ai commencé à marcher dans Port-au-Prince. C'est là que j'ai commencé à fréquenter d'autres quartiers. Et évidemment, à écouter d'autres gens. C'est un pays que j'ai appris à connaître à partir de l'âge de 19 ans, je dirais.
En tout cas, quand on suit un peu le parcours des intellectuels haïtiens, on se dit que la politique, c'est un peu comme la peinture en Haïti. C'est presque une seconde nature. On vous a entendu, Lionel Trouillot, crier haro sur le baudet concernant Michel Martelly lorsqu'il était aux affaires. Mais depuis février 2017, c'est le chef d'entreprise Jovenel Moïse qui est investi président et pour lequel vous avez aussi un certain regard noir. Remettons-nous en oreille son discours. C'était lors de la 73e session ordinaire de l'AG des Nations Unies, le 27 septembre dernier, après que la rue haïtienne l'ait chahuté.
Je dis à l'université peuple haïtien à genoux, pour qu'elle ne prenne pas de temps que nous n'avons pas qu'à l'école, pour fermer l'université, n'est qu'il y ait un diplôme dans mes hauts, c'est dans l'autre pays où on aller. Je dis, on nous dit, quel que soit l'étranger, il faut que je vienne l'aller.
Juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire. Cette expression violente de mécontentement d'une partie de la population ne peut être sous-estimée. Elle a posé avec une acuité particulière la question centrale des risques associés à l'extrême précarité socio-économique et au manque de perspective économique. Elle a mis en relief la fragilité des acquis obtenus. Aussi réels et incontestables soient-ils, ces acquis obtenus de haute lutte peuvent être mis en péril en l'absence d'un soutien adéquat sur la longue durée.
La rue haïtienne qui, donc, en juillet dernier, traitait le président Jovenel Moïse de voleur. Vous, Lionel Trouillot, je crois que vous traitiez son élection de farce électorale. Pour un seul majeur sur RFI, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de sa gouvernance ?
Oui, on peut revenir sur les élections. C'est quand même quelqu'un qui a été élu par une toute petite partie de la population. Je crois que ses principaux électeurs ont été les ambassadeurs des puissances étrangères en Haïti. Maintenant, quant à sa gouvernance, même si je n'aime pas le mot gouvernance, parlons plutôt de la réalité sociopolitique haïtienne. L'écart entre les riches et les pauvres, ça ne fait qu'augmenter.
J'ai un chiffre, si vous voulez, juste pour donner. 2 habitants sur 3 vivent aujourd'hui avec moins de $56 par mois. Et 4% de la population possède 66% des ressources du pays.
Et voilà. Voilà, donc rien n'est fait par ce pouvoir pour réduire les inégalités. On parle souvent du problème de la pauvreté en Haïti. Le problème majeur d'Haïti, c'est le problème d'un système social fondé sur la reproduction des inégalités sociales. Et ce gouvernement, ce pouvoir, est dans cette tradition renouvelée par Martelly, qui est justement de mépriser totalement les écarts sociaux.
Et puis il y a le problème de la reconstruction du pays depuis le séisme de 2010. Bon, là aussi, hein, quand on ouvre les tiroirs, on ressort toujours les mêmes chiffres. 4 milliards d'euros ont été apporté au pays par les pays donateurs. La question très occidentale, pardon, Lionel Trouillot, c'est où va l'argent ?
À l'Occident. La réponse est assez facile. D'ailleurs, sur chaque dollar donné par les Américains à Haïti officiellement, il y a seulement 20 centimes à être dépensés directement pour Haïti. C'est un vrai élément de réponse. Une bonne partie de cet argent retourne à l'Occident. Maintenant, c'est vrai que pour le reste, on peut demander aux autorités haïtiennes qu'est-ce qu'elles ont fait.
Du peu qu'elle a pu recevoir. Mais alors, est-ce que Haïti, là, c'est la seconde question aussi qui est un peu récurrente ces derniers temps, c'est est-ce qu'elle serait pas mieux, Haïti ne se relèverait pas mieux sans l'aide internationale ?
Écoutez, sans l'aide internationale, je ne sais pas, mais je pense que Haïti certainement s'en sortirait mieux si Haïti était maîtresse des décisions qui la concernent.
Pourquoi ne l'est-elle pas ?
Déjà parce qu'elle a les dirigeants qu'elle a, ensuite parce qu'elle...
Pourquoi elle a les dirigeants qu'elle a ?
Elle a les dirigeants qu'elle a qui nous sont souvent imposés d'ailleurs par les puissances étrangères. Moi, je taquine souvent mes amis français ou américains en disant que nous, quand on a le mauvais dirigeant, on peut quand même dire que nous ne les avons pas choisis. Parce qu'ils nous ont été...
Imposés.
Fondamentalement, il faut travailler à transformer la société haïtienne vers au moins la construction d'une société, on pourrait dire républicaine, d'une éthique républicaine. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir actuel, le pouvoir précédent n'ont pas du tout travaillé à cela. Au contraire, ils ont travaillé au renforcement des inégalités sociales et au renforcement de la dépendance vis-à-vis de la communauté internationale que je pourrais appeler par des mots qu'on n'utilise pas à la radio.
Si, on fait beaucoup de choses à la radio, vous savez, en tout cas sur RFI. Est-ce que vous avez toujours, vous diriez, le cœur communiste ?
Je pense que, pour reprendre un philosophe français, la seule hypothèse intéressante me semble être l'hypothèse communiste. Maintenant, ce qui en a été fait n'enlève pas, je dirais, la force de l'hypothèse. On revient à cette idée d'un dialogue, d'une conversation. Ce qui peut faire que cette conversation prenne sens, c'est l'égalité entre les personnes qui parlent. C'est l'égalité entre les peuples qui parlent, c'est l'égalité entre les États, entre les sociétés qui se parlent.
Il est mieux d'avoir un œuf aujourd'hui ou une poule demain.
Il ne faut pas se laisser submerger ni par la joie,
t'es comme,
ni par la tristesse.
Talisman.
Est-ce que, comme, à part cette cigarette-là qui vous suit depuis le début de l'émission, est-ce que, comme bon nombre d'auteurs, Lionel Trouillot, vous avez des talismans, des objets protecteurs ?
Non, pas du tout.
Vous avez un côté Lucky Luke avec votre clope là, pas allumée.
Non, pas du tout. J'essaie d'éviter toute forme de fétichisme.
Vous aimez pas même, hein?
Pardon?
Vous êtes à distance même de tout ce qui est fétichisme, etc.
Ah oui, résolument.
Méchamment?
Non, pas méchamment. Pas méchamment.
Est-ce que la langue et ses proverbes, par exemple, ça, en revanche, ça peut être une forme de talisman pour vous?
C'est un élément de relance. Soit pour les contester, parce que parfois, ces dictons, ces proverbes contiennent une vieille sagesse, une sagesse un peu paresseuse, qui ne laisse pas de place à la révolte. Donc il faut souvent les contester, ne pas les prendre pour les vérités générales qu'ils prétendent porter. Et en même temps, on peut partir de là pour produire de nouveaux sens. Donc en effet, je revisite, si vous voulez, ce parler populaire, cette sorte de discours un peu proverbial, un peu sur le mode de la sanction, comme une fausse vérité générale, on part de là et on l'ébranle un peu. On essaie de jeter un peu de trouble dans les certitudes.
C'est joliment rattrapé, ça. Quelle a été la langue de votre enfance?
Le créole et le français.
On vous appelait Tichéri dans l'enfance?
Ah non, le Tichéri, c'est quelque chose de très social. C'est-à-dire que vous avez une dame de la bourgeoisie, quand elle s'adresse à quelqu'un qui n'est pas de ce milieu, une sorte de condescendance, elle dit Tichéri, comme petit chéri. Au fait, c'est un rapprochement, mais c'est un rapprochement par le haut. Et la dame pourrait lui dire, mais je ne suis pas votre petit chéri. C'est un réflexe social.
Est-ce que vous, donc, qui venez des classes favorisées, vous diriez que vous avez le même lien au créole qu'une personne qui vient de Morne-Dédé, par exemple?
Non, simplement parce que moi, j'ai quand même l'usage de deux langues, alors que la majorité des Haïtiens n'ont que le créole comme langue. Moi, le langage de l'amour, le langage de la vérité, même le langage de la politesse, ce sont des choses qui me sont venues en français. Pas forcément pour mon bonheur, avec beaucoup de tiraillements. Donc, quand ma relation avec la langue créole n'a pas la richesse que celle de ceux qui ont tout fait, tout vécu dans cette langue possède.
Donc est-ce que ça a été un processus particulier, un cheminement pour vous d'écrire en créole?
Tout à fait, pour les gens de ma génération qui écrivent en créole, ça a même été un choix politique. À l'époque, quand j'ai commencé à écrire en créole dans les années 70, on disait le créole n'est pas une langue. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça en Haïti. Il y a quand même, de ce point de vue-là, des progrès qui ont été réalisé, mais on disait le créole n'est pas une langue, le créole n'a pas de graphie, le créole c'est ci, le créole... Donc on ne voyait que des défauts et des insuffisances à cette langue. Donc les gens de ma génération qui ont écrit en créole, ça a été un choix qu'on peut considérer comme un choix politique. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une belle association entre l'establishment littéraire et la dictature.
Franck-Étienne nous en a parlé, effectivement. Est-ce qu'on pourrait savourer ensemble un de vos poèmes en créole, Lionel Trouillot?
Je ne sais pas, est-ce que les locuteurs vont y comprendre quelque chose, mais je peux quand même essayer.
Faites confiance aux auditeurs des RFI.
C'est pas faute moins si qu'aime chagrin. Y a plavé ses cailles devant cathédrale. Tifiti garçon mâché dos à dos, si soleil levé y a roulé ses seaux. Mais coule fait minuit, gagne un flec mourit. Toujours un goût de sang dans plamène en nuit.
C'est l'histoire de petits garçons, pas loin d'une cathédrale à Port-au-Prince.
Oui, ouais. C'est un poème que j'ai écrit justement quand j'ai passé beaucoup de temps à errer, je dirais, dans Port-au-Prince, à driver, comme on dirait en créole, dans Port-au-Prince. Et il y a un quartier assez animé autour de la cathédrale où il y avait des mendiants. D'ailleurs, René Philoctète en parle dans son roman « Entre les saints et les saints ». Il y avait une sorte de sale vie et de belle vie nocturne dans ce quartier, sur un fond évidemment de tristesse aussi.
Est-ce que cette salvie ne pouvait s'exprimer qu'en créole alors?
J'ai choisi en créole parce que dans l'écriture poétique, je dois dire que c'est la première langue qui me vient.
Plus que le français?
Plus que le français. Au début, quand j'étais jeune, j'écrivais de très mauvais poèmes en français pour des jeunes filles qui de toute manière ne les lisaient pas. Et puis, au fil du temps, quelque chose s'est passé. On dirait que ma langue d'intimité, ma langue de mon regard personnel, c'est de plus en plus le créole.
C'est une langue aussi d'innovation davantage, le créole, que le français pour vous?
À partir du moment où on fait travail d'écriture, on est forcément dans un processus d'innovation. Ce n'est pas le même type d'innovation.
Oui, mais la poésie est condamnée à l'innovation, non?
Oui,
je parle sous votre contrôle, professeur.
Comme disait Octavio Paz, chaque poème devrait être un être unique.
Vous êtes plus singulier en créole qu'en français, vous croyez ?
Je le crois. Et c'est intéressant parce que c'est un processus qui s'est totalement inversé.
C'est-à-dire que c'était presque une langue un peu étrangère pour vous, le créole ?
Non, pas étrangère, c'est la langue de tous les jours, c'est la langue des coups de poing, c'est la langue dans laquelle on dit j'ai faim.
Oui, mais vous êtes un fils de petit bourgeois, vous. Les coups
ouais,
de poing, c'était pas tous les jours.
Mais même là, hein, le créole est la première langue. En Haïti, on parle d'abord créole et on parle accessoirement, je dirais français, mais sur le plan de la mémoire littéraire, sur le plan de la construction, du discours littéraire, du rapport à la création. Moi, j'ai grandi dans une génération pour laquelle on croyait que ça ne pouvait se faire qu'en français. Donc, il a fallu désapprendre quelque part. Quand je cherchais ma singularité, j'imitais les poèmes déjà écrits en français. Alors que, avec le temps, justement, il y a eu ce travail de rupture et quelque chose s'est imposé à l'intérieur de moi.
Et vous ne vous sentez plus dominé, je dirais, par la langue française aujourd'hui ?
Pas du tout.
Alors, si je vous fais le coup de la maison qui brûle, Lionel Trouillot, je sais que vous emportez prioritairement avec vous, par exemple, les auteurs de la Beat Generation. Pourquoi ?
Bon, je me suis retrouvé à New York, tout à fait malgré moi.
Entre 15 et 19 ans ?
Entre 15 et 19 ans, et je crois que découvrir cette sorte de folie, de révolte, vraiment de rejet de l'institutionnel et de descendre dans l'enfer des vies, des pauvres, des paumés, des déclassés.
Des hallucinogènes aussi.
Oui, que constitue le travail de ces écrivains de la Beat Generation. Ça m'a vraiment marqué et je crois que ça m'a aidé à me construire aussi comme écrivain en me disant qu'il faut aller au fond des choses, ne fuir aucune blessure.
Alors, je sais que vous emportez aussi, évidemment, parallèlement à ces auteurs de la Beat Generation, les grandes voix haïtiennes, un petit peu de Jacques Roumain, adapté au cinéma. On va dire que ça vous tente. L'histoire de Gouverneur de la Rosée, cher professeur, en une phrase, rapidement, juste après un petit verre d'eau.
Manuel, qui revient dans son village, qui était parti à Cuba, il revient dans son village natal, où il n'y a pas d'eau. Et il va réunir les énergies du village pour justement aller à la conquête de l'eau et pouvoir améliorer les conditions d'existence du village. Évidemment, avec toutes les réticences qu'on peut trouver dans un milieu paysan par rapport à cette proposition de nouveauté.
Manuel, donc, qui revient de Cuba, qui retrouve cette terre natale desséchée sous les yeux de sa mère.
Hier soir, j'étais assise là. Le soleil était couché, il y avait dans le bois un oiseau qui criait sans arrêt. J'avais peur de malheur et je songeais. Est-ce que je vais mourir sans revoir Manuel? C'est que, petite moi, je suis vieille, j'ai des douleurs, le corps n'est pas bon, la tête n'est pas meilleure et la vie est si difficile. L'autre jour, je disais à bien-aimé, je lui disais, bien-aimé, comment allons-nous faire? La sécheresse nous envahit, tout dépérit, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Le vent ne pousse pas les nuages. C'est un vent maudit du levant au couchant. Il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés?
Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans.
Ne déballe pas, mon fils. Ne mets pas de sacrilège dans ta bouche.
Je ne déballe pas, maman. Il y a les affaires du ciel et les affaires de la terre. Ça fait deux. Ce n'est pas la même chose. J'ai vu que vous avez déboisé les mônes. La terre est toute nue, sans protection. Ce sont les racines qui font amitié avec la terre et qui la retiennent. Sinon, la pluie écorche la terre, le soleil est chaude. Il ne reste plus que les roches. Je dis vrai. C'est pas le bon Dieu qui abandonne le nègre. C'est le nègre qui abandonne la terre.
Et pour en sol majeur, les derniers mots de ce film Gouverneur de la Rosée, qui a d'ailleurs été adapté en créole, hein, je crois, récemment. Eh bien, c'est Manuel qui les dit, ces mots. Nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas encore que nous sommes une force. Lionel Trouillot, vous qui êtes professeur de littérature française et créole à Port-au-Prince, qu'est-ce que vous diriez de ce livre, hein, surtout ? Est-ce que c'est une leçon d'écologie, mais aussi de philosophie, toujours d'actualité ?
C'est un livre majeur, c'est un livre qui a marqué tous les écrivains ici. On n'échappe pas à Gouverneur de la Rosée. C'est sans doute l'un des livres les plus réussis de toute l'histoire de la littérature haïtienne. Maintenant, quant à la proposition humaniste, elle est très belle. Mais j'ai parfois tendance à considérer Gouverneur de la Rosée comme une sorte de livre jeunesse. Ah. Dans la mesure où transformer le réel est beaucoup plus compliqué que cela.
Mais il faut du rêve, non ?
Oui, il faut certainement du rêve. Oui.
Mais est-ce que vos racines littéraires, à vous, finalement, elles sont à rechercher prioritairement dans la littérature haïtienne ?
J'ai eu la chance d'être né dans une bibliothèque où il y avait évidemment la littérature haïtienne, mais il y avait aussi un peu de la littérature du monde, je dirais bien entendu, roumain, Alexis, qui sont incontournables, mais aussi John Steinbeck, c'est un éclectique, et ce sont les textes qui me parlent plutôt que les œuvres complètes.
Est-ce que vous diriez que vous écrivez pour Haïti ?
Je n'aime pas, je trouve que c'est un peu prétentieux, je préfère dire que j'écris avec Haïti. Au sens où j'écris d'abord pour moi-même, parce que j'y trouve un certain plaisir. J'écris aussi parce que je voulais engager une discussion avec les éventuels lecteurs, mais dans ce plaisir que je me donne et dans cette conversation que je veux engager avec les éventuels lecteurs, évidemment qu'Haïti a une place première, parce que c'est à partir d'Haïti que je regarde le monde. Haïti, c'est ma première façon d'être humain, c'est mon premier lieu d'humanité, donc c'est mon lieu d'ouverture vers le reste du monde. Moi, je ne crois pas aux gens qui disent « moi, je n'ai pas d'ancrage ». Les gens qui n'ont pas d'ancrage, ça me semble très difficile pour eux de pouvoir aller vers l'autre. On est constitué par des lieux et on se reconstitue avec des lieux, et c'est justement ce qui nous permet de voyager.
Alors, à propos d'ancrage, comment vous tenez le gouvernail de cette fameuse question identitaire entre la créolité, une forme de francité chez vous, tout ça pas loin des eaux américaines?
Oh, pour moi, c'est du bavardage d'intellectuel ayant beaucoup de temps à perdre. Je vais vous dire franchement, nous en Haïti, on discute jamais de la créolité. On n'a pas le temps, on est dans la réalité de vivre cette situation, justement, de pays qui est sorti de la colonisation. D'ailleurs, quand on prend toutes ces îles qui ont été colonisées, on peut voir que les termes créolité, créole, créolisation n'ont pas du tout les mêmes sens par rapport aux histoires spécifiques de ces îles ou de ces communautés. Moi, j'essaie d'éviter ce genre de conversation.
C'est bien la première fois qu'on traite Nicolas Sarkozy d'intellectuel, en tout cas.
Yangen ye ning yong.
Quelle heure est-il dans votre vie?
Où est la ville que j'aimais? Je ne veux pas être enterré dans le grand cimetière. Je veux les lumières mortes de la cité de l'exposition. Je veux les papillons de la Saint-Jean, je veux les petites filles qui passent dans la rue et mon regard naissant comme une chanson secrète. Je veux être enterré dans mon enfance, sur le toit de la maison voisine. Lancer au ciel mon premier cerf-volant, épuisé par ce geste tout rêve de conquête. Je veux casser la gueule au petit imbécile qui attache à un bout de ficelle la queue d'une libellule. Je veux mourir dans mon enfance et que ne souffrent pas les humains et les libellules.
Alors, je ne sais pas si on a le droit de penser, en vous écoutant dans ce poème magnifique, c'est juste un extrait de « Nous sommes des îles disparues », Lionel Trouillot. Je ne sais pas si on a le droit de penser aux victimes du tsunami en Indonésie, terrible tsunami récent, autant qu'aux victimes du séisme haïtien avec ce poème. En tout cas, je relève cette image incroyable, « Je veux être enterré dans mon enfance ». Est-ce que la poésie est un art martial pour vous ?
Pour moi, la poésie est l'art suprême. Il y a beaucoup d'imbéciles à lire des romans et très peu d'imbéciles à lire de la poésie.
Il s'agit peut-être d'une question de respiration aussi, avec la langue qui se niche au cœur d'un poème. C'est pour ça que je parlais d'art martial, et c'était un clin d'œil aussi à deux personnalités auxquelles vous rendez hommage dans votre livre, Ne m'appelle pas capitaine, qui sont Jonas Daniel et Léo Cartwright.
Ce sont des professeurs d'arts martiaux, ce sont...
Vos professeurs d'arts martiaux, non? Ou ce sont des professeurs d'arts
martiaux? Ils sont professeurs d'arts martiaux, mais ils ont été mes professeurs d'arts martiaux parce que j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux. Léo Cartwright, qui a été mon professeur de taekwondo jusqu'à un grade avancé. Et Jonas Daniel, qui est un paysan haïtien, qui est un maître de ce qu'on appelle le bâton haïtien, qui est un art martial typiquement haïtien.
Qu'est-ce que vous leur devez et est-ce que ça...
Je leur dois beaucoup de sagesse.
Est-ce que ça influe sur votre écriture, sur votre geste poétique ?
Sur mon écriture, je ne sais pas, mais sur mon rapport aux choses, au monde, sur mon système de pensée, certainement, dans la construction du rapport avec soi-même, dans cette question de la violence, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la traite, parce qu'il y a beaucoup de violence en nous, comment on la gère, sur beaucoup de questions humaines, oui. Ce sont des personnes dont l'enseignement m'a été extrêmement utile.
En sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Lionel Trouillot, un nouveau roman qui paraît comme tous vos romans chez Actes Sud, Ne m'appelle pas capitaine. On va refermer cet En sol majeur avec votre ami musicien Jean Coulanges, et je tiens à remercier d'ailleurs son frère Amos qui a remué ciel et terre pour nous faire parvenir cette petite merveille. À signaler d'ailleurs que c'est pour vraiment le remercier qu'Amos Coulanges sera en concert avec Kessita Clénard au chant pour présenter son nouvel album Métis Cacao qui sort en décembre. Il est en concert le 9 novembre au bar La Pomme d'Ève, c'est à Paris dans le 5e. En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis bien sûr en podcast avec notre application Pure Radio. Et bien sûr, derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec, incroyable, Pipo Del Bono. À la semaine prochaine.
Oh, I do love this.